le journal est présenté par Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour, elle n'est pas une figure de l'écologie ni de la Macronie, mais elle est toujours en place depuis le début du mandat. Elisabeth Borne remplacera donc François de Rugy à la tête du ministère de la Transition écologique pour gérer tous les dossiers environnementaux ouverts par le gouvernement. Elle gardera également ses fonctions au ministère des Transports. Alors pourquoi ce choix? Les précisions de Julie-Marie Lecomte.
Elisabeth Borne, c'est une historique du gouvernement. Elle est dans l'équipe d'Édouard Philippe depuis le début. L'entourage d'Emmanuel Macron explique que le président de la République l'a choisie parce qu'elle a mené à bien l'une des réformes les plus importantes, selon lui, du début du quinquennat, celle de la SNCF, puis une réforme clé du début de l'acte 2, la loi sur les mobilités. Le président de la République considère qu'elle a deux points forts, de bonnes relations avec les élus locaux et une capacité à négocier avec les syndicats. Il mise sur son expérience. Il apprécie qu'elle se soit beaucoup frottée au terrain et au concret, commente un conseiller d'Élysée. Comme préfète de Poitou-Charentes, comme patronne de la RATP et comme directrice générale de l'urbanisme à la mairie de Paris, une ligne de son CV a plaidé en sa faveur. En 2014, Elisabeth Borne a été directrice de cabinet de Ségolène Royal, au ministère de l'écologie précisément, de quoi en avoir une maîtrise technique parfaite aux yeux du président.
Cette nomination a été rendue publique assez rapidement après la démission de François de Rugy, intervenu hier en fin de matinée, après une semaine de scandales et de révélations. Dernière en date, l'utilisation des frais de mandat de député de François de Rugy. Selon Mediapart, ces indemnités lui auraient servi à payer ses cotisations au parti Europe Écologie Les Verts. Cotisations, on le rappelle, soumises à défiscalisation. Un bon accord pour le gouvernement, un accord anti-climat pour une partie de ses détracteurs. Les députés français vont devoir se positionner sur le CETA aujourd'hui pour dire si oui ou non ils souhaitent sa ratification. Écoutez Jacques Maire, député LREM et rapporteur du texte sur cette ratification qui sera présentée à l'Assemblée. Pour lui, le CETA a un intérêt géostratégique pour l'Europe dans le contexte de la guerre commerciale avec les États-Unis.
Nous ne sommes pas pour des accords de libre-échange, on est pour des accords de juste échange. Et ça veut dire aujourd'hui qu'effectivement, on a besoin de faire en sorte que l'Europe ne soit pas victime de la guerre commerciale, qui ne fait que commencer. Et donc l'accord commercial aujourd'hui, CETA, c'est un accord avec un acteur qui a le même intérêt. Il veut aussi protéger ses débouchés. Et pour nous, donc cet accord, c'est bien simple, c'est à la fois consolider nos débouchés, mais aussi, à cette occasion, utiliser le seul instrument fédéral que nous avons au plan international, et c'est la politique commerciale. Cet instrument, il est tellement puissant qu'il nous permet effectivement, quelque part, de faire monter les exigences environnementales européennes opposables aux tiers quand ils veulent vraiment avoir accès au marché européen. Et aujourd'hui, je le dis franchement, il n'y aura pas d'accord avec l'Union européenne s'il n'y a pas de respect de l'accord de Paris.
Accord de Paris que la France ne respecte pas elle-même.
Évidemment, ça veut bien dire qu'on n'est pas parfait. Et ça veut dire effectivement qu'on n'en est qu'au tout début de l'évolution. Et nos députés, on n'est pas fiers de ne pas respecter l'accord de Paris. On n'est pas fiers non plus que le Canada ne respecte pas. Mais on trouve très intéressant que le Canada et l'Union européenne s'engagent sur l'accord de Paris, qui s'engagent aussi à porter des propositions de contrôle des émissions contraignantes pour des secteurs comme par exemple le maritime ou l'aérien qui ne sont pas couverts. Donc aujourd'hui, par exemple, grâce au CETA, on a une coalition euro-canadienne pour faire rentrer le transport aérien et le transport maritime dans l'accord de Paris. Ça, ça a de la valeur.
Jacques Maire, interrogé par Marie Viennot. Et puis, on vient de l'apprendre, au Soudan, les généraux au pouvoir et les meneurs du mouvement de contestation ont signé ce matin un accord qui entérine le partage du pouvoir pendant la période de transition après la destitution du président soudanais Omar el-Béchir. Les deux parties ont donc paraphé une déclaration politique. À l'issue de la rencontre, le numéro 2 du conseil militaire au pouvoir a salué un moment historique. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Retour en France où Marlène Schiappa poursuit ses rencontres en vue du Grenelle sur les féminicides qui se déroulera le 3 septembre prochain. L'un des axes du gouvernement sur ce thème est celui de la formation des policiers et des gendarmes pour accueillir ces femmes au moment notamment du dépôt de plainte. Et dans la communication officielle, on assure que tous les nouveaux gendarmes seront formés à l'accueil de ces femmes. Wafia Kenich a rencontré un gendarme qui est aussi référent violence conjugale. Il lui a raconté comment ça se passe sur le terrain.
Quand on interroge Philippe, gendarme lui-même, il est catégorique.
En gendarmerie, et même chez des jeunes qui viennent d'arriver dans nos unités, non, il n'y a pas de formation particulière pour recueillir la parole d'une femme victime de violence.
Philippe, lui, s'est formé auprès d'une psychologue. Il sait que ces femmes doivent être correctement accueillies et surtout entendues. Une écoute qui manque cruellement en gendarmerie.
Parfois, je pense que les gendarmes veulent pas entendre. Et donc, on va essayer de nuancer la chose de façon à ce que madame, là, ça sert à rien de déposer plainte.
Alors, Philippe ne laisse rien passer face à certains collègues, parfois plus que maladroits.
Mon collègue commençait, dès le départ, à mettre en doute les propos de la dame, quoi. Elle a commencé donc à parler du harcèlement que lui faisait son ex-compagnon, des menaces et du chantage qu'il usait sur les enfants, et tout ça devant tout le monde.
Pas de formation, absence d'intimité, il y a de grosses lacunes dans l'accueil de ces femmes, mais Philippe est pourtant confiant et à ses jeunes collègues, il donne un conseil.
Ce qui serait déjà énorme, c'est de ne pas mettre en doute la parole des victimes, parce qu'elles ont déjà énormément de mal à communiquer là-dessus, moi je dis à mes collègues, qu'il ne faut pas mettre en doute la parole des victimes de violences conjugales.
Le gendarme souhaiterait aussi que ces affaires soient traitées au sein de cellules dédiées, comme pour les cambriolages ou l'escroquerie. Ce serait, selon lui, le meilleur moyen d'assurer un suivi régulier dans les gendarmeries.
Un reportage de Wafia Kenich. C'était la mesure emblématique des ordonnances travail d'Emmanuel Macron, le barème des indemnités prud'homales qui fixe un montant plafond de ces indemnités en cas de licenciement abusif. Ce barème a été contesté par un certain nombre de conseils des prud'hommes. Il doit être aujourd'hui l'objet d'un avis de la Cour de cassation. Catherine Pétillon.
La décision est particulièrement attendue par tous ceux qui mènent la fronde contre le plafonnement des indemnités versées en cas de licenciement abusif. Afin de donner de la prévisibilité aux entreprises, les ordonnances réformant le Code du travail ont instauré des maxima allant de 1 à 20 mois de salaire en fonction de l'ancienneté de la personne dans l'entreprise. Un dispositif contesté depuis et écarté à plusieurs reprises par des conseils prud'homaux. À Troyes d'abord, puis dans plusieurs autres villes, Lyon, Grenoble, Amiens, ils ont contourné le barème. Deux d'entre eux, Toulouse et Louviers, ont sollicité l'avis de la Cour de cassation. La haute juridiction peut choisir de ne pas se prononcer sur le fond en estimant ne pas être compétente sur ce dossier. Si elle rend un avis, elle devra dire si le barème est juridiquement contestable et répondre aux arguments avancés par les syndicats de salariés. Ces derniers estiment que le dispositif ne permet pas d'appréhender les situations particulières et peu généreux en cas de faible ancienneté et surtout qu'il réduit le rôle du juge. Or, il se réfère à la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail, laquelle dispose qu'en cas de licenciement injustifié, les juges doivent pouvoir ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou d'une réparation considérée comme appropriée. Il cite de la même manière la Charte sociale européenne de 1996. Or, le barème, disent-ils, ne leur laisse plus cette marge d'appréciation. Lors d'une séance plénière, il y a 10 jours, l'avocate générale a, elle, estimé le barème conforme aux traités internationaux. De toute façon, la décision d'aujourd'hui n'épuisera pas le débat juridique, car l'avis rendu, quel qu'il soit, ne sera pas contraignant.
Le temps de ce mercredi 17 juillet, le ciel sera souvent voilé, mais il fera sec et chaud sur la majeure partie du pays. Quelques averses sur les massifs de la moitié sud. Les températures comptaient cet après-midi de 19 à 35 degrés. Ces journaux ont été réalisés avec Emmanuel Faucillon et François-Charles Domergue. Retour de l'information à 12h30 avec Hélène Fromanti. D'ici là, excellente matinée sur France Culture.